Javert.
Valjean, t'es un homme mort.
Ne laisse jamais la haine obscurcir la raison première de ton cœur.
Les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles, vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer, car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins n'est que folie et génie. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Lucie Tardy, David Pargamin, Denis Ramon, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes cette semaine Fabien Wolfrom, à la réalisation l'infatigable Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui d'Ofar Guérid. C'est rare de ne pas déjà avoir croisé, lu, rencontré, vu quelqu'un qui citait « Sur la route » de John Kerouac pour en faire l'éloge, pour dire qu'il l'avait élu comme le livre génial à lire, son livre de chevet en somme, pour célébrer le personnage de Dean Moriarty, ce fou par excellence, ce fou né sur la route, vivant sur la route, séduisant et s'agitant au fil des paysages. Ce fou parmi les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, parmi les dissidents qui deviennent des génies ou du moins des personnes qui ne laissent pas de marbre. Pour changer le monde, il faudrait donc être fou. Il faut être fou pour inventer, imaginer, explorer, pour transgresser les lois. Il faut être fou pour penser qu'on peut changer les choses et pour y parvenir. Fou ou génial, nous dit Kerouac, car il y a pour le coup quelque chose de génial à dire que l'on peut s'opposer aux règles sans rien leur opposer, qu'on peut mépriser les règles sans être dans l'irrévérence, qu'on peut les transgresser sans en avoir ou sans pouvoir en rendre compte. Mais dès que l'on franchit une limite, devient-on pour autant génial? Et comment être génial quand on veut rester dans le cadre? Autrement dit, comment change-t-on le monde, mais aussi comment pense-t-on différemment, plus loin, sur un autre ton, dans une autre dimension, dès lors que l'on n'est pas fou, mais raisonnable, dès lors que l'on doit et qu'on veut y rester dans ce monde, qu'on y est enraciné, que tout n'est pas à jeter, mais que rien ne va quand même, dès lors que l'on essaye de se donner des règles pour le réfléchir et pour le transformer. Entre la création impossible, décollée de tout, inactuelle, et l'actualité où l'histoire ne fait que se rappeler à notre bon souvenir, tournons notre regard cette semaine vers cinq jeunes philosophes qui explorent dès aujourd'hui l'horizon des savoirs, qui créent en renouvelant nos interrogations permanentes et surtout qui préfèrent désobéir à la folie. De la mémoire devenue inépuisable au contact du numérique, au poids de l'identité sur chacun à l'ère du genre et du post-colonialisme, en passant par la question jamais épuisée, elle, de l'existence de Dieu, c'est donc une semaine spéciale sur France Culture consacrée au lendemain des savoirs. Et pour commencer, j'ai le plaisir de poser cette question. Pourquoi désobéir à et avec Manuel Cervera-Marsal, philosophe et sociologue, enseignant-chercheur à l'EHESS, auteur notamment des nouveaux désobéissants citoyens ou hors la loi et aussi de Pour un suicide des intellectuels. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
You know, so I went down there, I did everything I was supposed to do, and I flunked a draft board test. Then, without testing me again to see if I'm any wiser or worse, they decide I can go in the army.
Cassius and Maya.
My name ain't Cassius Clay. That is a slave name, and I am a free man. I am Muhammad Ali.
Voilà ce que propose le gouvernement. Tu fais six semaines de classe et tu sors réserviste. Tu ne vas pas au Vietnam.
Marvin Decker Anderson, armée de terre. Price Marshall Benson, corps des marines. Cassius Marcellus Clay, armée de terre. Monsieur Clay, je dois vous informer que le refus d'obtempérer à un ordre d'incorporation constitue, d'après le règlement général des armées, ses articles relatifs au service militaire obligatoire, un délit passible de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de $15,000. Vous en êtes conscient ?
Oui.
Cassius Marcellus Clay. Cassius Marcellus Clay.
Bureau fédéral d'investigation. Vous êtes en état d'arrestation pour refus d'incorporation.
Sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la véritable place d'un homme juste est aussi en prison. La place qui convient aujourd'hui, la seule place que le Massachusetts ait prévue pour les esprits les plus libres et les moins abattus, c'est la prison d'État. Ce dernier les met dehors et leur ferme la porte au nez. Ne se sont-ils pas mis dehors eux-mêmes, de par leurs principes ? C'est là que l'esclave fugitif et le prisonnier mexicain en liberté surveillée et l'Indien venu pour invoquer les torts causés à sa race les trouveront sur ce terrain isolé, mais libre et honorable, où l'État relègue ceux qui ne sont pas avec lui, mais contre lui. C'est au sein d'un État esclavagiste, le seul domicile où un homme libre puisse trouver un gîte honorable. Une minorité ne peut rien tant qu'elle se conforme à la majorité. Ce n'est même pas alors une minorité. Mais elle est irrésistible lorsqu'elle fait obstruction de tout son poids. S'il n'est d'autre alternative que celle-ci, garder tous les justes en prison ou bien abandonner la guerre et l'esclavage, l'État n'hésitera pas à choisir. Si un millier d'hommes devaient s'abstenir de payer leurs impôts cette année, ce ne serait pas une initiative aussi brutale et sanglante que celle qui consisterait à les régler et à permettre ainsi à l'État de commettre des violences et de verser le sang innocent. Cela définit, en fait, une révolution pacifique dans la mesure où pareille chose est possible.
Manuel Cervera-Marsal, la référence canonique dès que l'on évoque la désobéissance civile, c'est bien sûr Henri David Thoreau, dont on vient d'entendre, interprété par le comédien Fabien Wolfrom, un extrait de son texte « La désobéissance civile » qui date de 1849, au départ qui était intitulé « Résistance au gouvernement civil ». Et puis juste avant, on a entendu un extrait du film « Ali », c'est un film de Michael Mann qui date de 2002, donc sur le boxeur Mohamed Ali qui refuse d'aller faire la guerre au Vietnam. La désobéissance civile dans l'histoire, en philosophie, c'est un thème assez classique. Pourquoi est-ce encore un thème d'actualité pour la philosophie ?
Alors c'est encore un thème d'actualité pour la philosophie, tout simplement parce qu'on n'en a pas fini avec les injustices. Là, on entendait parler de la guerre au Vietnam, et puis il y avait eu ces révélations sur le fait que, grâce aux Pentagon Papers, on a appris que voilà, il y avait des milliers de civils vietnamiens, tout simplement, qui étaient tués par l'armée américaine. Thoreau, lui, c'était contre l'esclavagisme et la politique belliciste du gouvernement du Massachusetts de son temps. Donc c'était des injustices flagrantes, criantes, l'impérialisme, l'esclavagisme, etc. Mais aujourd'hui, on a encore notre lot de souffrances, d'humiliation, et donc on a encore raison et on a encore des motifs pour s'insurger, pour passer à l'action. Et puis, parce que c'est ça qui est vraiment important qu'on a entendu dans l'extrait de Thoreau, on a tout intérêt à mettre nos actions en conformité avec nos convictions, parce que c'est ça qui est vraiment important. Juste après l'extrait qu'on vient d'entendre, Thoreau ajoute « Il y a 999 hommes qui sont prêts à défendre la vertu pour un seul homme vertueux. » Voilà, il y a 999 personnes qui condamnent l'esclavage, mais qui restent assis dans leur canapé, les pieds auprès du feu, pour un seul qui est prêt, comme lui, à refuser de payer les impôts parce qu'il refuse que son argent personnel, tout simplement, finance des politiques qui heurtent profondément ses convictions morales et politiques.
Alors, qu'est-ce qui a changé depuis Thoreau, conceptuellement en tout cas, et peut-être aussi sociologiquement, parce que vous êtes aussi sociologue, Manuel Cervera-Marsal, qu'est-ce qui a évolué dans cette idée de désobéissance civile ?
Alors, il y a quelque chose de fondamental qui a changé depuis Thoreau, c'est qu'on a introduit dans la désobéissance civile la dimension non violente. Soros est quelqu'un qui, alors lui, a refusé de payer ses impôts, mais qui a soutenu aussi très activement un autre anti-esclavagiste de son temps qui s'appelle John Brown et qui lui avait massacré un certain nombre de militaires physiquement. Soros a écrit un plaidoyer en défense de John Brown en disant bah voilà, la violence est légitime quand elle vise à lutter contre des injustices flagrantes. Et bien après ça, Gandhi va amener quelque chose vraiment d'essentiel, qui est cette idée de non-violence, à savoir que la désobéissance civile, c'est lutter contre toutes les formes de violence, mais pas seulement. C'est lutter contre la violence en refusant d'imiter les moyens de l'adversaire, en refusant de reprendre les armes de ceux qu'on combat, parce que sinon, on se met à son corps défendant à véhiculer justement des choses contre lesquelles on prétendait lutter. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Une autre dimension peut-être nouvelle par rapport à Soros, c'est que Soros justifiait la désobéissance civile en insistant sur la conscience individuelle. Il disait « on a toujours le droit de désobéir parce que ce que me dit mon fort intérieur prévaut sur ce que dit la loi, le droit, la volonté des législateurs ». Ça, c'était un premier axe de défense de la désobéissance civile qu'on retrouve aujourd'hui hein, chez tout un tas de désobéissants. Mais il y a quelque chose de plus qui est venu désormais, c'est que... La désobéissance civile aujourd'hui ne se légitime plus uniquement au nom de la conscience individuelle, mais aussi au nom de la démocratie, tout simplement. Chez Soros, c'était vraiment l'individu seul face à la majorité. La majorité est dans l'erreur et donc je lui résiste. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les désobéissants civils, de plus en plus, prennent appui sur des valeurs démocratiques en disant « nous, on représente la majorité ». Et non plus une minorité, voire un seul individu, on représente la majorité contre une minorité qui peut être celle des multinationales, de la finance, de gouvernants corrompus, etc., qui a confisqué justement le pouvoir à l'ensemble de la citoyenneté. Donc là, il y a quand même un basculement. La désobéissance civile, qui était quelque chose d'assez éthique, moral et puis assez individuel, devient quelque chose vraiment de politique, de collectif, qui se fait au nom du grand nombre et non plus d'un individu isolé, seul avec sa vérité.
Alors comment définir aujourd'hui la désobéissance civile dès lors qu'elle est beaucoup plus large, dès lors qu'elle prend une dimension collective, politique, dès lors qu'elle se multiplie, les formes de contestation sont diverses. Comment la définir et puis surtout comment la différencier par exemple de la résistance, de il y aurait la contestation, la violence, etc. D'autres formes en fait d'opposition.
Oui, tout à fait. Alors c'est effectivement une forme d'opposition. Il y a 3 ou 4 critères qui permettent de définir la désobéissance civile, on va dire que c'est une action publique, politique et puis surtout non violente et illégale. Alors le fait que c'est une action, c'est vraiment une action au sens direct du terme, c'est-à-dire contrairement au vote, on délègue pas à d'autres le pouvoir d'agir. Le deuxième point, c'est vraiment que c'est une action qui se fait de manière publique, à visage découvert et qui est politique. Donc le désobéissant civil, par exemple celui qui refuse de faire son service militaire, c'est quelqu'un qui cherche à changer la loi, qui refuse la conscription obligatoire et du coup le désobéissant civil se distingue de l'objecteur de conscience parce que l'objecteur de conscience, c'est simplement quelqu'un qui dit, moi, je veux qu'on me laisse en paix, qu'on laisse ma conscience tranquille et du coup, je demande à ce qu'on fasse une exception pour ma personne et qu'on m'autorise à ne pas servir l'armée. Le désobéissant civil, lui, vraiment, il agit à plusieurs, publiquement, pour abolir ce type de loi. Donc ça, c'est vraiment, il y a une dimension politique. Et puis les deux derniers points qui sont essentiels, c'est vraiment que c'est une action illégale d'abord, et donc du coup, ça veut dire que ça différencie la désobéissance civile de modes de contestation plus traditionnels et qui, eux, sont reconnus par nos constitutions, en tout cas dans les États libéraux, à savoir la manifestation, la pétition, la grève, qui voilà sont des formes d'action légale. Et dernier point important, c'est que c'est une action non violente, donc ça refuse, par exemple, d'en recourir au terrorisme, à la délinquance, à ce genre de choses.
Pour ce qui me concerne, je céderai pas.
Ovationné, puis félicité.
Et continuez comme ça, je suis avec vous.
Bravo !
Malgré sa convocation chez le sous-préfet, Jean-Michel Collot, maire d'Arcangues, reste inflexible, avec le soutien de dizaines de militants anti-mariage gay.
Collot, les familles sont avec toi.
Pour eux, son refus et celui de ses adjoints de marier un couple d'hommes dans leur mairie est un acte de courage.
Il a exprimé tout haut ce que beaucoup de maires et d'adjoints n'ont pas pu exprimer tout bas.
Il a contre-courant au nom de sa liberté de conscience.
La désobéissance civile est un acte politique. pas seulement au sens où elle vise la majorité qui a le pouvoir politique, mais parce qu'elle est guidée et justifiée par des principes politiques, c'est-à-dire par les principes de la justice qui gouvernent la Constitution et d'une manière générale les institutions de la société. Pour justifier la désobéissance civile, on ne fait pas appel aux principes de la moralité personnelle ou à des doctrines religieuses, même s'ils peuvent coïncider avec les revendications et les soutenir, et il va sans dire que la désobéissance civile ne peut être fondée seulement sur des intérêts de groupe ou sur ceux d'un individu. Au contraire, on recourt à la conception commune de la justice qui sous-tend l'ordre politique.
Le premier mariage homosexuel a été célébré en France ce matin à Bègle. Bertrand et Stéphane se sont dit oui. Le maire de Bègle, Noël Mamère, a procédé à l'union alors qu'à l'extérieur de la mairie, les pros et anti-mariage homo échangeaient des noms d'oiseaux. De son côté, Dominique de Villepin, le ministre de l'Intérieur, a lancé une procédure de sanction contre Noël Mamère. Le maire de Bègle risque un mois de suspension, voire une révocation.
Je constate que le gouvernement est en train de vouloir dramatiser cette affaire. Je pense qu'il se trompe. Donc moi je dis à M. Villepin, à M. Perben et à leurs amis, un peu de calme s'il vous plaît. Cela dit, s'ils veulent engager les poursuites contre moi, c'est leur problème. Moi je me défendrai. Il va falloir qu'ils prouvent que j'ai fait une faute. Hein. Donc ils ne sont pas encore au bout de leur fête.
Manuel Cervera-Marsal, alors on a mis en miroir deux actes de désobéissance civile liés au mariage homosexuel, donc deux actes faits par des maires. D'abord, on a entendu la voix du maire UMP Jean-Michel Collot, qui un mois après l'adoption de la loi en juin 2013 refuse de marier des gens du même sexe dans sa ville d'Arcang en Midi-Pyrénées. Et puis le maire Noël Mamère, qui lui, maire à Bègle, 9 ans avant l'adoption de la loi, a marié un couple homosexuel. Alors là, on est dans le cas de la désobéissance civile, dans ce que dit Rawls dans le texte que j'ai lu qui est extrait de sa théorie de la justice qui date de 1971, une désobéissance qui ferait appel à une conviction personnelle, dans le cas sûrement de Jean-Marie Collot, et en tout cas peut-être dans le cas aussi d'un appel à un ordre commun de justice. Il y aurait ces deux distinctions à opérer ici.
Oui, alors c'est intéressant parce que en apparence, on a deux actes qui sont assez proches. Hein, deux maires qui transgressent la loi concernant cette question du mariage homosexuel. Mais là où c'est très différent, c'est quand on regarde quelles sont les raisons de cet acte. Chez le premier, le maire UMP, il invoque, on l'a entendu dans l'extrait, sa conscience personnelle, dont on devine bien qu'elle est une conscience religieuse et que donc derrière, il transgresse la loi qui autorise le mariage pour tous en refusant de l'appliquer au nom d'une autre loi qui est une loi tout simplement religieuse, hein, qui lui vient très probablement de sa foi catholique et qui lui dit qu'on peut pas mettre sur le même plan des couples hétérosexuels et des couples du même sexe. Donc c'est vraiment pas un acte politique en fait, c'est un acte religieux qui procède de motivations religieuses et qui se fait sur un fond d'inégalité. C'est ça qui est quand même fondamental, hein. C'est l'inégalité entre tout simplement un couple homosexuel et un couple hétérosexuel. Ce que fait Noël Mamère, c'est tout à fait différent. Lui, il marie un couple homosexuel à un moment où c'était pas encore autorisé en France.
Et bien longtemps d'ailleurs, enfin c'était déjà c'était en question, déjà, mais c'était quand même 9 ans avant.
Voilà, donc c'était 9 ans avant la loi, donc c'est quand même un acte tout à fait novateur et pour le coup un acte courageux. Et là, il le fait au nom de quoi ? Non pas au nom d'une conscience religieuse ou personnelle, mais au nom de quelque chose qui s'appelle tout simplement la démocratie. Et la démocratie, c'est pas simplement des institutions, des élections, un régime politique. La démocratie, ça repose sur une idée fondamentale qui est celle d'égalité. Et cette égalité, alors c'est l'égalité politique en droit des citoyens, mais c'est aussi une égalité sociale au sens où voilà, chacun, quel que soit, alors on a coutume de dire quelle que soit sa nation, quelle que soit sa religion, et puis quelle que soit son orientation sexuelle, dispose des mêmes droits que les autres. Voilà, l'égalité des droits, c'est tout simplement au nom de ce principe-là qu'agit Noël Mamère.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Noël Mamère emploie le terme de « si j'ai fait une faute, j'aimerais qu'on me le prouve ». Alors effectivement, il n'a pas fait une faute morale, en revanche, il a transgressé la loi qui, à l'époque, n'était pas adoptée. Oui. On n'avait pas le droit, un maire n'avait pas le droit de marier des gens du même sexe. Donc, il était bien dans l'illégalité, mais il était peut-être dans la légitimité. Alors, comment on fait pour articuler, comment la désobéissance civile va permettre d'articuler ces deux dimensions-là ?
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a possibilité de désobéir à partir du moment où il y a un écart entre ce qui est légal et ce qui est juste, ce qui est dit dans le droit positif et ce qui relève d'une idée du droit plus idéal. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a un conflit des devoirs et que du coup on peut essayer de violer, transgresser la loi pour essayer de la faire converger vers justement l'idéal de justice, vers l'idéal démocratique. Donc c'est vraiment l'action de Noël Mamère. À première vue, on pourrait dire elle est contre la loi, elle est illégale. Mais en fait, elle vise plutôt à rendre la loi fidèle à elle-même, à rehausser la loi, à la faire se hisser jusqu'à son concept qui est celui d'égalité et de justice.
Donc ça présuppose, dans la désobéissance civile, c'est-à-dire que par exemple, Soro, qui lui allait agir en vertu d'un principe transcendant de conscience, Jean-Michel Collot, qui va agir en vertu d'un principe religieux transcendant également. Donc là, ça voudrait dire qu'on serait tout autant dans la transcendance, c'est-à-dire de viser un idéal de justice, et on serait dans ce que décrit Rawls dans la désobéissance, quand il vient justifier la désobéissance civile, en disant qu'elle se fait en référence à un idéal de justice qui sous-tendrait notre communauté politique.
Oui, c'est ça qui est assez compliqué, c'est que, alors évidemment, chez les gens qui désobéissent pour des motifs religieux, ou même chez les suprémacistes blancs américains qui désobéissent pour des motifs biologiques, la race blanche supérieure à la race noire, la transcendance, là, elle fait aucun doute parce qu'elle est manifeste. Voilà, c'est la transcendance religieuse, la transcendance de la race, des choses complètement fantasmées. Mais cette forme de transcendance, on la retrouve aussi dans une désobéissance qu'on pourrait dire de gauche ou progressiste, à travers l'invocation justement à des normes comme ça, intemporelles, éternelles, à une idée immuable de la justice. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer aussi dans mon ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, on a des formes de désobéissance peut-être plus immanentes, ou en tout cas qui désacralisent, qui abandonnent cette référence à un absolu. On désobéit au nom d'une autre idée de la loi, mais sans avoir de certitude sur le fait que cette autre idée de la loi est supérieure à la loi transgressée, qui est la loi en vigueur. Et donc c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que on ose transgresser la loi sans non plus avoir de garantie absolue et objective que l'acte qu'on est en train de commettre est légitime. On le fait en prenant une part de risque et on assume entièrement les risques qui découlent de notre action.
Donc sans avoir même peut-être autre chose en fait à y substituer à cette loi qui soi-disant ne convient pas.
Sans avoir forcément autre chose à y substituer, ou du moins cette autre chose qu'on a à proposer, justement, on la propose, c'est quelque chose d'ouvert, c'est une autre conception de la loi, mais qu'on soumet à la discussion. C'est pour ça qu'on agit publiquement, qu'on va faucher des OGM à visage découvert, en prévenant les médias, en prévenant les autorités, pour poser des problèmes nouveaux dans l'espace public, sur la nocivité des organismes génétiquement modifiés, sur la dangerosité du nucléaire, etc. Mais il ne s'agit pas d'imposer son idée alternative de la loi, mais simplement de la soumettre au débat public, d'exposer des torts, de manifester des injustices, en ayant bien conscience que on est en démocratie, qu'en démocratie, on a un affrontement entre des opinions qui peuvent être plus ou moins raisonnables, plus ou moins fondées, mais que personne ne possède jamais une vérité absolue qui viendrait clore le débat, qui viendrait trancher la discussion. Ça, non, il n'y en a pas, ni du côté de l'État qui instaure des lois qu'on peut juger injustes, ni d'ailleurs du côté des désobéissants qui ne détiennent pas plus le monopole de la vérité.
Ce qui est intéressant, c'est que vous présupposez aussi la nature de la démocratie, c'est-à-dire que d'un côté, votre travail se distingue d'un courant évidemment conservateur qui va condamner la désobéissance comme le menace à la stabilité, à la pérennité d'un État, etc. Mais vous vous distinguez aussi du courant libéral incarné par Rawls, qui va modérer en fait cette désobéissance civile. Vous allez juste poser en fait la désobéissance comme l'ouverture d'une discussion. En fait, est-ce que le risque n'est-il pas de tomber dans une désobéissance purement formelle en fait, c'est-à-dire de refuser d'être dans la pure négation, d'être dans l'ouverture du débat, mais de ne jamais penser des conditions en fait de ce débat, de ne jamais donner finalement, comme on n'a pas de référence de mesure, d'étalons de mesure, on n'a pas un idéal démocratique à défendre. Alors comment ça se passe du coup pour effectivement hiérarchiser faisait aussi les désobéissances pour différencier la désobéissance d'un Jean-Michel Collot, d'un Noël Mamère.
Alors on n'a pas de référence absolue, mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu toute forme de référence. On a des repères, simplement on a conscience que nos repères sur lesquels on s'appuie pour désobéir, c'est des repères qui sont eux-mêmes contingents, qui renferment une part d'arbitraire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont entièrement subjectifs et qu'on tombe dans le relativisme intégral, mais simplement on a conscience que on désobéit à une loi pour la changer, pour instaurer une nouvelle loi. Imaginons que ça emporte le succès escompté, qu'on établisse cette nouvelle loi. Eh bien, on a conscience que cette nouvelle loi, elle est elle-même sujette à discussion et qu'elle est elle-même contestable et qu'on peut à nouveau reprendre sans cesse dans un mouvement comme ça incessant l'action de désobéissance. Et c'est pour ça que dans l'ouvrage, je distingue bien la désobéissance de l'anti-obéissance. L'anti-obéissance, c'est vraiment cette idée que il faut conjurer toute loi, tout institut, parce que l'institution, c'est forcément ce qui sclérose, ce qui immobilise, ce qui pétrifie la vitalité démocratique. Mais la désobéissance, non, c'est pas le refus absolu de l'obéissance. C'est simplement un rapport lucide à l'obéissance, conscient du fait qu'il faut parfois obéir et qu'il faut parfois désobéir, mais en fonction de circonstances qui sont toujours particulières. Et c'est pour ça que cette dimension créatrice, positive, comme vous disiez, de la désobéissance, elle est vraiment fondamentale. Gandhi, lui, disait il faut toujours adosser l'action de désobéissance civile à un programme constructif. C'est-à-dire, on désobéit à certaines institutions, mais pas pour abolir toute forme d'institution, simplement pour en créer d'autres. On boycotte les tribunaux britanniques, les écoles britanniques, parce qu'elles sont fondées sur des pratiques coloniales. Mais c'est pas pour abolir la justice et l'école, c'est pour créer un système scolaire et judiciaire géré par les Indiens eux-mêmes. Et donc cette idée, elle est vraiment très forte, on la retrouve chez Martin Luther King, qui parlait de contestation créatrice. Voilà, il y a toujours les deux versants, contester et créer, s'opposer et proposer.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est la question que tout le monde en fait se pose avec le mouvement de Nuit Debout, par exemple. Tout le monde se dit où est-ce que ça en est? Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à transformer, que les partisans ou les participants de Nuit Debout n'arrivent pas à transformer politiquement ce mouvement-là. Et c'est vrai que c'est la question en fait que tout le monde se pose. Mais est-ce que finalement, c'est pas la question qui est la question piège? C'est-à-dire que finalement, est-ce que il doit forcément y avoir une issue politique, une transformation? Est-ce que la désobéissance civile, ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est déjà, elle manifeste déjà la nature de la démocratie qui serait purement conflictuelle.
Oui, alors c'est très intéressant parce qu'on reproche sans cesse à Nuit Debout de ne pas être politique et on demande mais quand arrivera ce débouché politique?
C'est ce qu'on demande d'ailleurs pour n'importe quelle grève, n'importe quelle manifestation, que voulez-vous?
Parce que justement, on repose sur, actuellement, on réfléchit avec deux grandes catégories qui sont d'un côté mobilisation sociale, et de l'autre, action politique. Comme si les mobilisations sociales n'étaient pas politiques. Mais non, absolument pas. C'est pas parce que c'est, Nuit Debout, c'est pas partisan, mais c'est très politique. Il y a une conception de la démocratie, il y a même une pratique en acte de démocratie directe, participative, qu'on voit tous les jours s'esquisser à Place de la République. Et puis, c'est pas seulement une micro-société démocratique qui fonctionne sur ces 150 places françaises, c'est aussi à travers les commissions constituantes qui réfléchissent à rédiger un texte qui permettrait de changer tout simplement de régime politique. Il y a des propositions qui sont considérablement plus politiques que ce que font que les espèces de batailles d'ego, les luttes de chefs à quelles on assiste quotidiennement entre, bon voilà, il n'y a pas besoin de donner des noms. Donc là, il y a vraiment une dimension politique à côté de laquelle on passe parce qu'on a une conception très étroite de la politique où en fait on associe ce domaine d'activité à la gestion bureaucratique des affaires de l'État, alors que la politique c'est quelque chose de bien plus noble et de bien plus ancré dans la société que ce qu'on a coutume d'appeler par ce nom là aujourd'hui.
Pra ver filhos. aucun dit. Oh meu pai do céu, na terra é carnaval. Chama o pessoal.
Il est 10h30, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Et dans cette semaine spéciale, demain, les savoirs sur France Culture, en partenariat avec la nuit Science et Lettres qui aura lieu dans la nuit du 3 au 4 juin à l'ENS de la rue d'Ulm. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir un jeune philosophe, Manuel Cervera-Marsal, enseignant-chercheur à l'EHESS, sociologue et philosophe, donc auteur notamment des Nouveaux désobéissants citoyens ou hors la loi, c'est disponible aux éditions du Bord de l'eau, et puis aussi de Pour un suicide des intellectuels, disponible aux éditions textuelle.
All over India, people are praying that you will end the fast. They're walking in the streets, offering garlands to the police and to British soldiers.
J'ai peut-être été un peu trop loin.
Je regrette, Monsieur Gandhi, mais vous êtes en état d'arrestation.
Et pour quelle raison?
Sédition.
Je n'arrive pas à y croire. Même les Britanniques ne peuvent pas être aussi bêtes.
Pandidji, aide-moi, s'il te plaît.
Mira, tu verras bien sur bas. À la moindre manifestation, la moindre agitation, la moindre mauvaise action, je jeûnerai à nouveau. Je suis à vos ordres, monsieur. Je sais que nous ne sommes pas prêts pour ma forme d'indépendance. Et si on m'incarcère, c'est peut-être ce qui parlera le plus en faveur de notre pays pour l'instant. Et quand il s'agit d'aider l'Inde, je n'ai jamais refusé l'hospitalité de Sa Majesté.
Le prisonnier à la barre.
La non-coopération a un objectif. Le renversement du gouvernement. La sédition, pour nous, est une arme et un credo. Nous ne devons faire aucun quartier et n'en attendre aucun. Niez-vous avoir écrit ceci ?
Pas le moins du monde. Et je vais vous faire gagner du temps, Monsieur le Président, en déclarant ici sous serment que pour moi la non-coopération avec le mal est un devoir et l'administration britannique est un mal.
Je suppose que vous allez assurer vous-même votre défense, Monsieur Gandhi.
Je ne plaiderai pas pour ma défense, je suis coupable. Si vous avez sincèrement foi en la législation que vous appliquez dans mon pays, vous devez, Monsieur le Président, me condamner à la plus lourde peine possible.
Mon devoir est de continuer à convertir mes adversaires, ou alors je dois admettre ma propre défaite. J'ai pour mission de convertir à la non-violence les Indiens, les Anglais et finalement le monde entier pour supprimer toute injustice dans les relations politiques, économiques, sociales et religieuses. Certains de mes amis d'Amérique ont émis l'idée que la bombe atomique allait servir la cause de la non-violence mieux que toute autre chose. C'est possible, dans la mesure où les hommes se détourneront de la violence, aussi longtemps qu'ils seront horrifiés par le pouvoir de destruction de cette arme. C'est exactement comme un homme gorgé de friandises au point d'en avoir la nausée. Il s'en détourne un instant, tout juste assez pour redoubler d'appétit aussitôt que les effets de la nausée ne se font plus sentir. De la même manière, le monde reviendra à la violence en redoublant de zèle une fois dissipé l'effet de terreur. D'un mal, il sort souvent un bien. Mais c'est à Dieu et non à l'homme à en décider. L'homme doit simplement savoir que le mal vient du mal, comme le bien s'explique de son côté par le bien. La morale qu'on est en droit de tirer de cette tragédie de la bombe atomique est qu'on ne se débarrassera pas de sa menace en faisant d'autres bombes plus destructrices encore, pas plus que la violence ne peut faire disparaître la violence. L'humanité ne peut échapper à la violence qu'au moyen de la non-violence.
Manuel Cervera-Marsal, alors après voici une autre figure incontournable de la désobéissance civile, c'est Gandhi, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, dont vous avez un petit peu parlé déjà pour la dimension non-violente de la désobéissance. Et c'est peut-être ce qui permet, Gandhi permet peut-être de penser effectivement cette idée de civil qui va avec désobéissance, qui permet aussi de penser la fondation d'une communauté politique.
C'est ça, effectivement. La civilité, c'est un terme dans le langage courant qui est très polysémique. Hein. Civil, ça peut être qui est civilisé, qui s'oppose aux militaires, c'est la société civile, donc la société publique non étatique. Ça a beaucoup, beaucoup de sens. Et puis Gandhi en apporte un nouveau, hein, qui est tout simplement que pour lui, la civilité, c'est la non-violence. Voilà. Et c'est ce qui va permettre à nouveau hein, de lutter contre les formes de violence qui travaillent la société actuelle et en même temps de poser déjà les bases, les prémices d'un autre monde fondé sur la non-violence. Gandhi, lui, avait créé en Inde à l'époque ce qu'il appelait des ashrams, des espèces de communautés un peu autarciques, mais qui fonctionnaient vraiment sur un mode égalitaire avec la rotation des tâches, le refus de toute la machinerie et les automatismes occidentaux parce qu'il était assez critique de tout ça. Et donc, la non-violence, voilà, c'est effectivement un projet de société à part entière. C'est un moyen d'action et en même temps un projet de société.
Alors comment articuler cette idée de désobéissance qui est quand même fondée sur le conflit, hein, l'échange qui peut être plus ou moins musclé en fait, parce que quand vous parlez tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure d'OGM, de manifestations, les dernières manifestations auxquelles on a assisté, peu importe à qui reviennent le fait des violences, mais ce sont des manifestations qui n'excluent pas la violence. Effectivement, alors comment on peut à la fois articuler cette idée d'une démocratie conflictuelle qui ne tombe pas dans la violence.
C'est ça. Oui, c'est la grande question en fait, hein, parce que ce que nous apprend la désobéissance civile, c'est que la démocratie, c'est pas la paix. Voilà, la démocratie, c'est pas un état social parfaitement harmonieux, limpide, qui en général est pas si limpide que ça, parce qu'il voile tout un tas de, il cache tout un tas d'injustices, de domination, de rapports d'exploitation, etc. Donc la politique et l'action politique, c'est pas la paix. C'est une action beaucoup plus conflictuelle que ça. Une action d'opposition. Mais quand on dit ça, on bascule vers un autre risque, c'est d'assimiler l'action politique tout simplement à un conflit guerrier, un conflit violent. Et là, c'est la deuxième grande idée que nous apporte la désobéissance, c'est que tout conflit n'est pas nécessairement violent. Voilà, toute force n'est pas nécessairement violente. Il y a des formes de d'action politique comme le boycott, comme la grève, qui à l'époque de Gandhi en Inde, quand il pratiquait ça, c'était des formes de désobéissance civile parce que c'était pas autorisé par l'Empire britannique. Donc ces formes d'action d'action politique, elles font pression sur un adversaire. Mais c'est pas pour autant de la violence. Voilà, on n'est pas en train de s'en prendre physiquement à l'adversaire. On est simplement en train d'essayer de lui faire mal, de lui nuire économiquement, de nuire voilà à son image publique, de nuire à son autorité pour tout simplement l'emmener à quitter le pays et pour décoloniser l'Inde. Et donc voilà, il y a cette idée vraiment fondamentale que l'action politique est à la fois plus conflictuelle que la paix et en même temps moins violente que la guerre. Donc on est dans une tension comme ça et désobéir à ce titre-là, c'est vraiment combattre un adversaire mais pas abattre un ennemi. Il y a une vraie différence entre le conflit politique et l'affrontement guerrier, en tout cas chez Gandhi.
La question même qu'on pourrait poser, c'est vraiment la question aussi des institutions qui auraient à transformer, qui pourraient maintenir en fait cet état de conflit qui à la fois serait une limite pour que ça ne tombe pas dans un état guerrier et serait aussi une sorte de garde-fou au consensus mou qui effectivement solutionne tous les conflits en disant bon bah finalement on s'est mis d'accord là-dessus, ah mais pas vraiment là-dessus mais on oublie. Donc comment on pourrait maintenir institutionnellement un état de conflit?
C'est ça qui est très compliqué. Hein. Dans la Constitution française jamais appliquée de 1793, il y avait ce droit dans l'article 3, il me semble, à l'insoumission. Donc voilà, il y avait inscrit dans
c'est
la norme
2,
suprême, l'article 2 peut-être.
Oui. Ah non, c'est le 3, vous avez raison.
En tout cas, il y avait dans la norme suprême une ouverture pour un conflit justement vis-à-vis de l'ordre juridique. Et ça, c'est toute la difficulté. C'est comment faire en sorte qu'on ait des institutions qui permettent de stabiliser un petit peu la vie sociale, de faire durer les choses, parce qu'on peut pas vivre dans de l'agitation permanente, dans de l'ébullition de chaque instant. Donc comment avoir des institutions et en même temps comment ménager une ouverture dans ces institutions qui permettent à chaque fois de les reprendre, de les retravailler, de se retourner sur ce qu'on a déjà fait, parce que l'autre risque, il y a un risque, c'est l'effervescence permanente qui tout simplement rend la vie invivable, mais il y a un autre risque, c'est la sclérose, c'est des institutions établies de manière définitive une fois pour toutes, qu'on juge comme étant parfaites ou optimale, et contre lesquels, du coup, on n'a jamais le droit de désobéir, puisque si c'est les institutions parfaites, optimales, si c'est la bonne société, il n'y a plus de place pour la désobéissance. La désobéissance, c'est forcément le signe d'une pathologie, dans ce cas-là, d'un dysfonctionnement. Il faut absolument s'en garder, l'éliminer. Donc c'est ça, il y a une tension entre l'instituant et l'institué, entre la création et la conservation.
Mais le problème de la désobéissance, c'est dès lors qu'on institue une forme de conflit, la désobéissance n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'on a le droit, finalement, d'être d'accord ou pas d'accord de multiples manières, ou alors de manière peut-être cadrée. Mais néanmoins, alors à ce moment-là, la désobéissance n'est jamais qu'une voie, qu'un moyen de parvenir à autre chose qu'elle-même.
Alors, je pense qu'il faut différencier justement différents niveaux et différentes formes de conflit, parce que on a, pour moi, le conflit démocratique, c'est un conflit qui se joue à travers l'action, vraiment. L'action au sens fort, presque au sens arendtien, et qui se traduit le mieux, Arendt le disait, à travers les moments révolutionnaires, insurrectionnels, ou les moments de désobéissance dont on parle ce matin. Et cette logique conflictuelle, elle est toujours en proie à un double risque, qui serait d'une part un risque d'emballement. Donc là, c'est l'action qui génère un surplus tout à fait destructeur, parce que le conflit politique s'emballe en conflit guerrier, où justement, là, on ne cherche plus à s'opposer, mais vraiment à se massacrer et à supprimer l'ennemi. Et puis, il y a un autre risque qui est un peu inverse, c'est le risque de rétrécissement du conflit. Là, dans ce cas-là, au lieu d'avoir un conflit qui se joue dans l'action, on a un conflit qui se joue plus uniquement qu'au niveau du discours, au niveau de l'échange un peu mou, un peu faible, c'est ce que Benjamin Barber appelle la démocratie faible, simplement un espèce d'échange d'arguments entre gens bien policés sur les rangs d'une assemblée nationale, par exemple, mais avec le refus des formes plus actives de la contestation. Donc, il y a toujours ce double écueil qu'il faut essayer d'éviter. Et c'est une tension, c'est un espèce d'équilibre hein, qui n'est pas facile à préserver.
Good evening, London.
Julian Assange, depuis le balcon de l'ambassade d'Équateur à Londres, 20 décembre 2012.
The Pentagon reissued its threats.
Le Pentagone a réitéré ses menaces contre moi en septembre.
And claimed the very existence
et a affirmé que l'existence même de Wikileaks, c'était un crime commis en plein jour. Mon œuvre ne sera pas étouffée, mais tant que cette enquête immorale se poursuit, et tant que le gouvernement australien ne défendra pas le journalisme et Wikileaks, je dois rester ici.
True democracy is not Canberra.
La vraie démocratie n'est pas à Canberra.
True democracy is the resistance of people armed with the truth.
La vraie démocratie est la résistance des peuples
against lies,
armés de la seule vérité,
to right here in London.
De la place Tahrir jusqu'à ici, à Londres.
People often ask,
les gens me demandent souvent,
what can I do?
Que puis-je faire?
The answer is not so difficult.
La réponse n'est pas si compliquée.
Learn how the world works.
Apprenez comment fonctionne le monde.
And intentions of those who seek to control us.
Remettez en question les déclarations et les intentions de ceux et celles qui cherchent à nous contrôler derrière une façade de démocratie ou de monarchie.
Unite in common purpose and common principle.
Unissez-vous pour un but commun et un principe commun.
To design, build, document, finance and defend.
Afin d'imaginer, construire, documenter, financer et défendre.
Learn,
apprenez,
challenge,
défiez,
act.
Agissez.
Now.
Maintenant. Merci.
Pendant longtemps, l'intellectuel dit de gauche a pris la parole et s'est vu reconnaître le droit de parler en tant que maître de vérité et de justice. On l'écoutait, ou il prétendait se faire écouter comme représentant de l'universel. Être intellectuel, c'était être un peu la conscience de tous. L'intellectuel, par son choix moral, théorique et politique, veut être porteur de cette universalité, mais dans sa forme consciente et élaborée. Mais il y a bien des années maintenant qu'on ne demande plus à l'intellectuel de jouer ce rôle. Un nouveau mode de liaison entre la théorie et la pratique s'est établi. Les intellectuels ont pris l'habitude de travailler non pas dans l'universel, l'exemplaire, le juste et le vrai pour tous, mais dans des secteurs déterminés, en des points précis, où les situer soit leurs conditions de travail, soit leurs conditions de vie. Le logement, l'hôpital, l'asile, le laboratoire, l'université, les rapports familiaux ou sexuels. Ils y ont gagné à coup sûr une conscience beaucoup plus concrète et immédiate des luttes. Et ils ont rencontré là des problèmes qui étaient spécifiques, non universels, parce qu'il s'agissait de luttes réelles, matérielles, quotidiennes. C'est ce que j'appellerais l'intellectuel spécifique par opposition à l'intellectuel universel. Alors Manuel Cervera-Marcel, il nous reste quelques minutes pour évoquer la figure de l'intellectuel. C'est quelque chose dont vous parlez dans votre dernier ouvrage pour un suicide des intellectuels. Je viens de lire un extrait du rôle spécifique de l'intellectuel, c'est de Michel Foucault. C'est paru à la fin des années 70 et c'est disponible dans le deuxième volume de ses 10 et écrits. Puis on a entendu juste avant Julian Assange qui effectivement s'oppose peut-être à ce que dit Foucault ici, à savoir... Là, pour le coup, c'est un intellectuel universel qui s'adresse au monde entier, qui défend un monde commun et qui n'est pas à défendre une tâche spécifique, que ce soit le logement, la sexualité ou l'université, comme le dit Foucault.
Oui, alors effectivement, moi je trouve que ce qu'a dit Foucault sur l'intellectuel spécifique, c'est quand même quelque chose d'assez problématique parce que, bon, on sent bien, on sait que Foucault est du côté des prisonniers, du côté des fous, du côté des opprimés, etc. Mais en plaidant pour un intellectuel qui s'occupe comme ça de chacun d'une tâche un peu spécifique. Moi, mon domaine de spécialité, c'est l'hôpital, c'est la prison, c'est l'école, et chacun parle uniquement de son domaine de spécialité. Je me dis que cet intellectuel spécifique de Foucault reproduit un petit peu le modèle des experts qui, pour le coup, sont du côté du pouvoir et qui, là aussi, sont chacun sur leur petite tranche, avec leur petit sujet. Et donc, dans les deux cas, on a deux figures, alors qui sont politiquement opposées parce que qui défendent les dominants ou les dominés, mais qui travaillent de la même manière en saucissonnant les problèmes, en les prenant vraiment les uns séparés des autres. Et à mon avis, c'est très embêtant parce que je pense que dans le travail intellectuel, il y a vraiment une exigence de prendre en charge la globalité du pensable, de tisser des liens, de voyager entre les disciplines, de voyager entre les problèmes. Et quand on veut mener une critique, parce que c'est quand même pour moi un intellectuel, quelqu'un qui a une responsabilité dans le monde qui est le nôtre, qui est un monde avec tout un tas d'injustices, et l'intellectuel doit apporter des armes à la critique. Quand on a une vocation critique, on est obligé d'avoir aussi un regard global, un regard d'ensemble sur la société, qu'empêche la posture de Foucault, comme celle des experts en économie qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué peut-être.
Vous, quand vous appelez évidemment à un suicide des intellectuels, ce n'est évidemment pas un suicide au sens physique. Propre et physique des intellectuels, mais bien une transformation de ce terme-là. Il y a vraiment quelque chose qui se lie à ce que vous venez de dire sur la désobéissance civile. Les intellectuels doivent jouer un rôle, en fait, doivent devenir des acteurs critiques de la désobéissance civile.
Oui, et en même temps, il y a vraiment deux risques à éviter. D'une part, c'est la posture surplombante de l'intellectuel qui, alors dans un entretien qui est dans 10 et écrit aussi entre Deleuze et Foucault, Deleuze dit il y a quelque chose de vraiment indigne quand on a un intellectuel, c'est de parler à la place des opprimés. Donc effectivement, il y a ce risque-là pour les intellectuels, c'est de prendre la parole à la place de ceux qui ils prétendent défendre. Mais il y a un autre risque que Deleuze pointe pas, c'est que il est indigne de parler à la place des opprimés, mais il est aussi indigne de se taire quand il y a de l'oppression. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Tout un ensemble d'intellectuels qui refusent d'intervenir dans le débat public, de dénoncer les torts, de s'engager, de prendre un peu sur eux-mêmes pour justement mettre leur autorité professionnelle et puis le résultat de leurs travaux à disposition des plus faibles. Ça, c'est l'autre risque. C'est l'intellectuel qui se tient à l'écart de la cité.
Qui surplombe le philosophe, la figure peut-être du philosophe dans sa tour d'ivoire.
C'est le philosophe complètement dans sa tour d'ivoire. Il y a le philosophe conseiller du prince aux manettes du gouvernement et puis il y a le philosophe vraiment isolé du monde dans sa tour d'ivoire. Et donc l'enjeu entre ces deux écueils, c'est vraiment de trouver un philosophe, un intellectuel qui soit dans la cité, qui soit parmi ses concitoyens, mais sans être au-dessus d'eux. Voilà, il a une spécificité, c'est certain, parce que c'est quelqu'un, bon, ben, qui a la chance, entre guillemets, d'être payé pour se consacrer aux choses de la pensée. Et donc il a du temps pour lire des livres, aller en bibliothèque, faire des études. Donc il a une position un peu singulière qui fait que oui, il a accès à une certaine connaissance qui n'est pas forcément aussi facilement accessible pour d'autres personnes. Mais cette spécificité ne le place pas au-dessus. Voilà, il n'a pas ce privilège que Platon, pour le coup, accordait aux philosophes d'une détention, d'une vérité ou d'une essence qui devrait ensuite lui procurer un pouvoir supérieur aux autres. Donc voilà, il y a ce double écueil de la dépolitisation, on va dire, et du surplomb ou de la domination sur le reste de la cité.
Just like in the community.
Eh bien, merci beaucoup Manuel Cervera-Marsal. Je rappelle que l'on peut lire de vous Les Nouveaux Désobéissants, Citoyens ou Hors-la-Loi, c'est disponible aux éditions du Bord de l'Eau. Pour Un Suicide des Intellectuels, c'est chez Textuel. Donc ça, c'est pour les plus récents, mais vous avez aussi écrit Miguel Abinsour, Critique de la Domination, Pensée de l'Émancipation, c'est aux éditions Sens et Tonka, Gandhi, Politique de la Non-Violence, aux éditions Michalon, ou encore Désobéir en Démocratie, La Pensée Désobéissante de Soro à Martin Luther King, aux éditions Forge du Vulcain. Et puis exceptionnellement, puisqu'il s'agit d'une semaine demain, Les Savoirs sur France Culture, à l'occasion du partenariat avec la nuit Science et Lettres qui aura lieu dans la nuit du 3 au 4 juin à l'ENS rue d'Ulm, eh bien l'équipe des Nouveaux Chemins est allée à la rencontre de jeunes doctorants pour leur demander en quoi leur thèse pouvait éclairer le monde. Et aujourd'hui, c'est Sophie-Anne Biziot qui fait des recherches autour de la place de l'étranger dans la communauté politique. Déjà auteur d'un livre commun parce que diffusé Le Monde à l'épreuve de l'étranger aux éditions de la rue d'Ulm, qui répond à cette vaste question au micro de David Pargamin en 2 minutes 30.
Une thèse sur quoi ?
Sur rien.
Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça.
Comment est-ce que mon livre pourrait éclairer le monde ? Moi c'est une question qui me met énormément mal à l'aise en fait, parce que ben, d'emblée ça sous-entend que voilà, il y aurait des gens qui seraient là pour penser le monde, pour éclairer, le théoriser, et d'autres personnes qui seraient là pour le changer. Enfin, tu fais une sorte de séparation dans le schéma de l'action où tu as les gens qui vont penser l'action et les autres qui vont l'exécuter. Et moi qui travaille en philosophie politique, c'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise, parce que la philosophie politique, pendant longtemps, ça a été voilà, le philosophe qui va produire la théorie du bon gouvernement. Comment voilà, donner un guide pour les politiciens du monde entier pour qu'ils mettent en place cette communauté politique mondiale. Tout mon livre, il s'est construit à partir d'Apori. Voilà, j'ai essayé de penser la politique du monde. Comment est-ce qu'on peut penser une communauté politique mondiale ? Et là, je me suis rendu compte que voilà, la communauté politique, ça impliquait, dans sa définition classique, un dénominateur commun, une certaine identité de la communauté sur laquelle asseoir la politique, et que ce dénominateur commun, le problème, c'est qu'il n'existait pas à l'échelle mondiale. Donc il y avait une sorte d'antinomie entre la possibilité d'une politique et une politique qui soit du monde. Et c'est à partir de cette aporie, en fait, que j'ai commencé à faire mes recherches. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que les philosophes avaient toujours tenté de forcer cette aporie pour permettre à la communauté politique de prendre les dimensions du monde. Donc c'est chercher à tout prix un dénominateur commun sur lequel asseoir cette cosmopolitique. Et ça m'a amené à une redéfinition complète, d'une part, de la politique, se séparer du postulat selon lequel la politique serait une affaire d'identité, et d'autre part, redéfinir le monde, non pas comme une totalité homogène, voilà, toujours avec cette idée de dénominateur commun, mais voir comment le monde est commun parce que divisé, donc ça, c'est le titre de mon livre, commun parce que justement traversé par d'infinités de frontières qui font que ce monde est absolument pas homogène, mais de voir comment c'est à l'intérieur de ces frontières même que se trouve le monde, puisque c'est précisément dans ces points qu'il peut y avoir conflictualité, qu'il peut y avoir donc rencontre avec l'étranger, et qu'il peut y avoir quelque chose de politique. Et ce que j'ai trouvé de cosmopolitique, c'était justement ce qui se trouvait dans ces frontières, qui semblent le diviser, mais qui pourtant font que ce monde est commun.
Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ce...
Non, personne.
Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, hein ?
Pour faire parler les cons.
Et merci beaucoup David Pargamin. C'était donc Sophie-Anne Biziot au micro de David. Eh bien, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine. Demain les savoirs, demain la philosophie. Donc, et demain donc, c'est Manel Renoir, philosophe, écrivain et traducteur français, qui viendra nous parler de ses fragments d'une mémoire infinie, un livre qui est paru aux éditions Grasset. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.